Il est 19h, temps universel.
Washington, la voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir, Jean-Roger Billon à ce microphone. Dans un instant, le magazine économique, mais tout d'abord, un bulletin d'information. La marine de guerre libyenne a arraisonné un navire transportant du pétrole brut qu'une milice séparatiste tentait d'exporter en dépit des injonctions des autorités nationales. Le navire Morning Glory a été intercepté au port oriental d'Astidra et a été escorté vers un port contrôlé par l'État. Il bat pavillon de complaisance nord-coréen, mais l'identité du propriétaire n'est pas connue. Le pétrolier a achevé dimanche de charger du brut d'une valeur de 30 millions de dollars en dépit de la menace des autorités libyennes de le bombarder. République démocratique du Congo, la MONUSCO lance un ultimatum au FDLR. Martin Kobler, le chef de la mission onusienne en RDC, demande à ses rebelles Hutus rwandais de se rendre sous peine d'être désarmés de force. Les opérations visent à neutraliser les FDLR et leurs alliés. Elles permettront aussi la restauration de l'autorité de l'État conformément au mandat de l'ONU de protéger les populations civiles et conformément aux règles d'engagement, a déclaré M. Kobler. En Centrafrique, scène de liesse à Kaga-Bandoro, je vais y arriver. Au centre du pays, la population a laissé exploser sa joie suite à l'arrivée hier des forces françaises dans la ville. Plusieurs familles qui avaient fui en brousse commencent à sortir. Le point sur la situation avec Nicolas Pinault.
Oui, pour la population, l'arrivée des forces françaises Sangaris dans la ville a été vécue comme un soulagement. Pris en étau entre les ex-Séléka et les anti-Balaka, les habitants espèrent un désarmement rapide des deux groupes. Cependant, le commandement de l'opération Sangaris n'a pas encore donné des indications exactes sur la mission des soldats français sur place. Selon une source locale, depuis ce matin, les centaines de familles qui s'étaient réfugiées en brousse et à l'église catholique commencent à regagner leur maison. Kaga-Bandoro a récemment été le théâtre de violents affrontements entre anti-Balaka et ex-Séléka. À Bangui, par contre, la tension est toujours palpable au PK5 et dans une partie du 5e arrondissement. Un soldat de l'ancienne Séléka, basé au camp Béal, a été retrouvé grièvement blessé dans la matinée vers Yassimandji. On ignore encore les circonstances dans lesquelles l'homme a été agressé, mais ses chefs militaires imputent l'acte aux anti-Balaka. C'est dans ce contexte que la commission d'enquête de l'ONU est arrivée en fin d'après-midi dans la capitale centrafricaine. Elle enquêtera sur les graves violations des droits de l'homme afin de traduire leurs auteurs en justice.
Deux jours après la disparition du Boeing malaisien, le mystère reste entier. Le chef d'Interpol a indiqué aujourd'hui que la disparition ne semble pas être liée au terrorisme. De nouvelles informations sur les deux citoyens iraniens qui ont utilisé des passeports volés écartent définitivement cette thèse selon l'Organisation internationale de police. Pendant ce temps, l'armée malaisienne affirme détenir des preuves radar selon lesquelles le Boeing 777 aurait volé des centaines de kilomètres à l'ouest en direction du détroit de Malacca. En Ukraine, le président déchu Viktor Yanukovych a dénoncé aujourd'hui les élections prévues le 25 mai par le nouveau gouvernement ukrainien, les qualifiant d'illégitimes et d'illégales. Il a aussi réitéré qu'il demeure le chef de l'État. Le président américain Barack Obama reçoit ce mercredi le premier ministre par intérim de l'Ukraine, Arseniy Yatsenyuk, à la Maison-Blanche. Le Sénat américain a adopté à l'unanimité un projet de loi modifiant la justice militaire pour mieux combattre le viol au sein des forces armées américaines. La loi limite l'utilisation des bons états de service d'un soldat comme défense contre une accusation de viol ou d'agression sexuelle. Michel Joseph.
La mesure, adoptée tard lundi soir, a été élaborée de manière bipartisane par la sénatrice démocrate Claire McCaskill du Missouri et ses collègues républicaines Kelly Ayotte du New Hampshire et Deb Fischer du Nebraska. Elle propose 6 changements qui faciliteraient la lutte contre le viol et les agressions dans l'armée, des problèmes présentés par les responsables du Pentagone comme un cancer dans les rangs. Sous le projet de loi, un militaire accusé de viol ou d'agression ne pourra pas évoquer son bon comportement professionnel comme défense, à moins qu'il y ait un lien évident avec l'affaire en question. La mesure établit aussi un processus confidentiel permettant aux victimes présumées de crimes sexuels de contester leur révocation de l'armée. Le soutien unanime de ce projet de loi contraste avec la levée de boucliers des leaders militaires la semaine dernière contre une mesure proposée par la sénatrice démocrate Kirsten Gillibrand de New York et qui retirerait aux chefs militaires la latitude de juger les affaires de viol pour la confier à des avocats militaires hors de la chaîne de commande. Cette initiative avait échoué au Sénat, faute de n'avoir pas réuni le minimum de 60 voix nécessaires. Pour ce qui est du nouveau projet de loi, il est en général bien accueilli au Pentagone. La Chambre des représentants pourrait l'adopter séparément ou l'intégrer dans le volumineux projet de budget de la Défense.
Merci Michel. Vous écoutez La Voix de l'Amérique. Restez avec nous dans un instant, le magazine de l'économie. Bonsoir à tous, Bagassi Koura pour le magazine hebdomadaire de l'économie. Les titres tout d'abord au Tchad, troisième jour de grève dans le secteur pétrolier.
Nous voulons qu'on augmente notre salaire à 200% et là les Chinois nous ont proposé 2%.
Lagmé Argue, délégué du personnel du consortium pétrolier chinois opérant au Tchad, à Gao dans le nord du Mali, consommer des fruits et légumes n'est pas donné à tout le monde en Ouganda. La ruée vers l'or dans la province de Karamoja pèse comme une épée de Damoclès sur ce qui est devenu le gagne-pain des Karamojong.
Ekirou passe désormais sa journée dans une rivière presque asséchée, à mélanger terre et eau et soigneusement tamiser ce mélange dans l'espoir de trouver des petites pépites étincelantes. Des fois, il peut se faire jusqu'à 3 dollars par jour et d'autres, rien du tout.
Voilà, le FBI et les agents du Trésor américain sont arrivés hier à Kiev pour aider à retrouver l'argent public volé. Voilà, on commence par le Tchad où on est à la troisième journée de la grève lancée par les travailleurs d'un consortium formé par les compagnies chinoises Great Wall Drilling Corporation et China National Logging Corporation, spécialisée dans la prospection pétrolière. Évoquant des conditions de travail difficiles, les grévistes réclament une augmentation de salaire de 200%, mais le consortium ne leur propose que 2%. Timothée Dounamay a joint à N'Djamena Lagmé Argue. Il est le délégué du personnel du consortium pétrolier chinois.
Nous voulons qu'on augmente notre salaire à 200% et là, les Chinois nous ont proposé 2%. Et les autres avantages, par exemple, les primes de risque, les avantages du chantier pétrolier qu'on fait chez les Chinois, on ne gagne pas ces avantages-là. Les heures supplémentaires, ils ne nous payent pas. Parfois, on fait plus de 45 jours au chantier et ces jours-là, même, on ne nous paye pas. Donc, franchement, c'est difficile avec les Chinois.
Il y a pourtant une législation du travail au Tchad, non?
Oui, il y a des législations de travail au Tchad, mais les Chinois ne respectent pas la loi tchadienne. Les Chinois ont piétiné la loi tchadienne. Si vous voulez, je vais vous donner un exemple palpable. Le directeur général qui a été renvoyé par un arrêté ministériel, ce directeur-là est revenu aujourd'hui, c'est son quatrième jour. Il est là tranquillement, il se promène. Donc, eux, ils ne respectent pas la loi tchadienne. Donc, franchement, ce qu'on est en train de vivre avec les Chinois, c'est la crise négrière moderne.
Alors, vous avez lancé une grève de 3 jours. Qu'est-ce qui va se passer après?
Oui, bon, on a lancé une grève de 3 jours renouvelable. Et là, on commence à avoir des menaces de la part des Chinois. D'ailleurs, quand on était à la table de la négociation, le directeur général nous a dit, bon, si vous voyez que le 2% qu'on vous a proposé sur votre salaire de base ne vous convient pas, quittez l'entreprise, partez ailleurs, cherchez là où c'est mieux. Donc, vous voyez, même chez nous, au Tchad, ils viennent, ils nous renvoient. Donc, on ne sait pas ce qu'ils veulent faire ici. Mais nous-mêmes, on les a donné une bonne réponse. On dit, ok, d'accord, si vous voulez qu'on quitte pour chercher l'entreprise qui est mieux, vous aussi, vous allez quitter ce pays, allez chercher un pays où vous allez faire vos désordres d'abord aussi. Nous sommes les fils de ce pays. Donc, c'est la réponse qu'on leur a donnée. Mais pour le moment, on a observé 3 jours de grève pacifique. Comme ils refusent, ils nous mélangent. Maintenant, on va renouveler notre grève. Ce qui arrive après, là, parce que pour le moment, les Chinois travaillent, nous, on ne travaille pas. Mais après ça, les Tchadiens ne travaillent pas et même les Chinois ne travaillent pas. Donc, on verra le 12 à partir de 0h. Les Tchadiens ne travaillent pas et les Chinois aussi ne travaillent pas. Sur leur lettre de menace, là, ils disent qu'ils vont renforcer les gendarmes pour protéger ceux qui vont accepter de travailler. Et ceux qui ne vont pas, les grévistes, on va les rapatrier tous en N'Djamena, ils vont quitter le site. Donc on est en train d'attendre. On ne sait pas si c'est les gendarmes tchadiens qui vont le faire venir ou bien c'est les gendarmes chinois. Donc c'est ce qu'on attend.
Voilà, c'était Lagmé Argue, délégué du personnel du consortium pétrolier chinois opérant au Tchad. À
à Gao dans le nord du Mali. Consommer des fruits et des légumes n'est pas donné à tout le monde. Les nombreuses contraintes obligent les vendeurs de fruits et de légumes et de condiments à fixer les prix qui varient énormément. De Gao, la correspondance de Boubacar Touré.
La région de Gao accuse beaucoup de retard dans la culture des produits de consommation, si bien que les commerçants se rabattent sur la région de Sikasso, Bamako et souvent même sur le Niger pour satisfaire les besoins de la population. Bengali Amadou Dimido, vendeur de légumes.
On vend des légumes venant de Sikasso. L'oignon gros c'est 500, petit c'est 600. Bon, tu sais, en matière de commerce, là, les prix d'achat, là, aucun commerçant va te dire les prix d'achat en tant que tel. Donc, on peut donner un prix, sinon, les prix vrais, vrais, aucun commerçant va te donner ça. Les prix, les abordables. S'il y a crise, ça monte et souvent, ça diminue.
Les camions qui transportent les marchandises ne sont pas adaptés et l'état de la route cause des pertes énormes pour les commerçants. Gambi Maïga, vendeuse de légumes au marché Damien Boiteux.
Je suis vendeuse de légumes.
Je vends de la tomate, de la pomme de terre, de l'oignon, des choux et des fruits divers qui nous proviennent de Sikasso. Le marché est bien fourni, mais c'est timide. Les gens sont pauvres. Souvent, nous faisons des pertes énormes parce que nous n'arrivons pas à bien conserver les produits. Les camions qui font la ligne peuvent faire 2 à 3 jours en route avant d'arriver à Gao. Souvent même plus, parce que les vieux camions tombent en panne. Donc c'est une perte pour nous.
Les nombreuses difficultés ne sont pas sans conséquence pour le panier de la ménagère. Mariam Isaac, ménagère à Sanaï.
L'oignon est très cher, y compris les fruits. La pomme de terre, c'est à 700 francs le kilo. L'oignon à 600 francs. Les petits condiments à 100 francs. La tomate fraîche à 200 francs. Le marché est très, très cher.
La précarité des populations sorties d'une crise profonde il y a seulement un an explique peut-être l'écoulement très timide des produits de consommation décriés par Maimounatou Diara, vendeuse de condiments au marché Damien Boiteux.
Le marché est très timide. On ne vend pas trop. Si on essaye de faire une comparaison par rapport aux années passées, c'est pas la même chose. Les condiments peuvent rester 2 à 3 mois. On a trop de difficultés, vous voyez. Même nos places ne sont pas trop utilisables. À cela aussi, il faut ajouter les taxes de la mairie. Partout au Mali, c'est 50 francs. Par personne, mais à Gao, c'est 100 francs. Au marché, on a trop de problèmes, surtout nous les femmes.
Pour Amadou Bengali, originaire de Sikasso, venu s'installer à Gao, le salut des populations de la région ne vient que par l'engagement des jeunes au travail de la terre.
La pomme de terre qui quitte à Sikasso, pourquoi les gens de Gao ne peuvent pas faire ça? Pourquoi les gens de Gao ne peuvent pas faire ça? Il y a de la terre et puis la semence, ça donne bien à Gao. Puis là, par rapport à Sikasso même, c'est ça, les gens n'arrivent pas à comprendre.
Si les autorités municipales sont invitées à revoir à la baisse les taxes de la mairie, le gouvernement malien, quant à lui, est interpellé par rapport à l'état de la route.
C'est Sangri Bakari, vendeur de légumes au marché de Gao. Gao s'est varé, il n'y a pas la route. Hein. Bon, vraiment, vraiment, ils ont fait tout que Gao s'est varé. Ils ont fait la solution. Et si ça dépasse peut-être des ans, peut-être même la route doit couper. Parce qu'entre les coins de Doro même, il n'y en a pas. Il n'a qu'à faire tout. Le temps de vote même. J'ai dit qu'en tant qu'un autorité de Gao, il n'a qu'à dire quelqu'un, celui qui veut Gao, faire la route d'abord. Si ce n'est pas Moussa Traoré, l'ancien président, les gens de Gao même, ils ne connaissent pas la capitale du Mali. Dieu et Moussa, ils font les premières routes.
En attendant de trouver les solutions idoines à ces nombreuses difficultés claires, les populations de Gao doivent continuer à garder leur mal en patience. Gao Boubacar Touré pour Sahel Plus sur la voie de l'Amérique.
Au Nigeria, une entreprise pas comme les autres, Jobberman.com, est une initiative de jeunes Nigériens qui ont entrepris de réduire le chômage dans leur pays. Aujourd'hui, avec plus de 700 000 CV enregistrés, 20 000 offres d'emploi régulées sur le site, ils font le bonheur de milliers de jeunes chômeurs à la recherche de travail. De Lagos, le reportage d'Ali Kabré.
Jobberman.com, le premier site internet de recherche d'emploi au Nigeria, est une initiative jeune conçue et mise en œuvre par 3 étudiants au cours de l'année 2009. Pendant la grève et le blocage de cours sur le campus à l'époque, ils décident de mettre à profit leur temps libre. Sans argent ni parrain, les 3 jeunes ont l'idée de trouver des offres d'emploi auprès des entreprises et de les diffuser auprès du grand public par le biais d'Internet. Qui paye, certainement pas les chômeurs, mais les entreprises elles-mêmes qui inscrivent les profils et qualifications recherchées sur le site jobberman.com. Lekan Olude, cofondateur du projet, nous parle des difficultés rencontrées au départ de l'initiative.
Les difficultés rencontrées étaient celles liées à la vie normale d'étudiants. Les étudiants ont en général beaucoup d'idées et ils veulent tout faire en même temps. Et nous avions la difficulté majeure de trouver du temps pour nous asseoir et discuter de ce que nous allions faire exactement. Maintenant, pendant la grève, nous avions énormément de temps car il n'y avait pas de cours ni d'examen. Seulement, lorsque les cours ont repris, nous avons réalisé qu'il nous fallait continuer de travailler sur notre projet et suivre les cours en même temps. Nous avons donc dû affiner davantage notre idée et nous avons déterminé des horaires précis de réunion et des objectifs d'étapes quotidiennes et hebdomadaires.
Aujourd'hui, Jobberman.com constitue le plus grand site internet d'offres d'emploi en Afrique subsaharienne. Les références statistiques parlent d'elles-mêmes, avec plus d'un million d'utilisateurs réguliers du site et plus de 30 000 entreprises répertoriées. Jobberman.com a fortement contribué à réduire le chômage au Nigeria, comme nous l'explique Lekan Olude.
Before now, people had the premonition.
Autrefois, les gens avaient l'idée préconçue que pour avoir du travail au Nigeria, il fallait connaître quelqu'un au placé ou avoir un oncle comme parrain dans la structure. Ce sont ces idées toutes faites que Jobberman a changé maintenant en présentant les offres d'emploi disponibles directement au grand public et dire aux gens qu'ils peuvent concourir à ces postes et être sélectionnés. Et nous avons développé un protocole interne de sorte que personne ici à Jobberman n'est impliqué dans la procédure de recrutement. Nous aidons simplement à publier les offres d'emploi et c'est aux entreprises de choisir elles-mêmes leurs candidats. Et sur un autre plan, pour tous ceux qui n'avaient pas accès à ces informations, nous avons aidé en regroupant sur une seule plateforme toutes les offres d'emploi disponibles au Nigeria. Aujourd'hui, nous avons au moins 20 000 offres d'emploi régulièrement disponibles dans beaucoup de secteurs, les écoles, les hôpitaux, les agences gouvernementales. C'est nous qui allons parfois chercher les offres d'emploi pour ensuite les mettre sur notre site pour que les gens puissent déposer leur candidature.
Une fois les informations recueillies et mises sur le site, les chercheurs d'emploi s'inscrivent gratuitement à partir d'un ordinateur ou du téléphone mobile en donnant des informations sur leur secteur d'activité et leur expérience professionnelle. Et ce jeu n'a rien à voir avec le hasard, c'est plutôt une combinaison de deux facteurs, la chance et le dur labeur selon Lekan Olude.
It's a form of opportunity meeting a ready person.
C'est en quelque sorte la rencontre entre l'opportunité et une personne déjà bien préparée. Bien sûr, nous avons eu de la chance de mettre en œuvre une idée qui a marché, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Mais il faut dire que nous étions préparés, en ce sens que, alors que nous étions encore sur les bancs du campus, nous avions déjà des contacts avec le monde du travail. Nous avons développé un savoir-faire qui nous permet aujourd'hui de délivrer des services à une plus grande échelle. Et il faut l'admettre, nous avons eu de la chance d'avoir le soutien de personnes plus expérimentées pour développer notre entreprise. Mais étions-nous totalement chanceux? Je dirais que non, car nous étions aussi préparés quand l'opportunité s'est présentée.
Lekan, Okpe et Deji, les 3 fondateurs du groupe, font la fierté et le bonheur de nombreux jeunes au Nigeria. La renommée et la capacité opérationnelle de l'entreprise impressionnent. De nombreux véhicules aux couleurs de Jobberman.com entourent le grand bâtiment dans lequel s'activent des dizaines d'employés dévoués. Des bancs du campus universitaire à son doux fauteuil du quartier chic de Lekki, Lekan Olude estime qu'il faut simplement oser inventer son propre avenir.
For the youth, I would advise that they should not run into the mentality of blaming the government.
À la jeunesse, je conseillerais de ne pas céder à cette mentalité très en vogue, cette facilité de toujours accuser le gouvernement ou les parents, quel que soit le type de problème auquel ils sont confrontés. Ils doivent se prendre en main dans le présent et concevoir leur futur comme le fruit de leur travail. À travers ce processus, ils vont commencer à imaginer comment améliorer leur vie. Dans cette perspective, je les encourage à se dépasser eux-mêmes en ce sens qu'ils doivent prendre des risques, notamment à leur jeune âge où ils peuvent toujours compter sur le soutien de leurs parents. Je leur conseille aussi de prendre le taureau par les cornes, de réfléchir à leurs rêves et d'essayer de les réaliser.
Pour la Voix de l'Amérique, Ali Cabré, Lagos.
Vous écoutez La Voix de l'Amérique, c'est le magazine de l'économie au micro Bagassi Koura. Direction le Sénégal à présent pour nous intéresser aux énergies renouvelables. Pour un pays qui a presque du soleil toute l'année, le Sénégal est plutôt à la traîne en matière d'énergie renouvelable. C'est d'ailleurs une thématique plutôt méconnue du grand public et la plupart des Sénégalais trouvent que cette nouvelle énergie est bien trop chère alors que selon eux, elle devrait être bien plus abordable. Si l'énergie renouvelable est encore inaccessible, beaucoup de professionnels du secteur sont convaincus qu'avec une volonté des pouvoirs publics, il serait possible de mettre le solaire à la disposition de tous pour le moment. Le coût élevé des matériaux et la TVA font que beaucoup de gens n'investissent pas encore dans ce secteur de Dakar. Un reportage de Djeneba Seydouba.
Nous sommes dans une des grandes centres commerciaux de Dakar et tout un palier est réservé à l'électronique, l'électroménager et énergie renouvelable. Devant une des rares boutiques qui propose une installation d'énergie solaire, Doudou Diagne regarde attentivement les articles proposés. Il hoche la tête, un peu découragé, non pas par la qualité des produits, mais par le coût exorbitant de l'accès à l'énergie solaire.
Le coût, c'est un peu cher. Parce que si on veut une puissance, par exemple, prenons 5 kVA, là vous êtes obligé de casquer un peu fort, parce qu'avec une batterie de 250 ampères qui coûte dans les 200 000, donc si vous voulez avoir une autonomie de 12 heures de temps, donc il faut au minimum 4 batteries. Donc 4 batteries calculées, donc à 250 000 francs l'unité, ça fait combien ?
Un coût qui peut-être s'explique selon lui par la provenance du matériel.
Comme c'est un début, peut-être les gars ils vont essayer de voir. Je crois que le matériel, normalement, il vient de l'Allemagne. Hein. Donc en fait, ensuite, il paraît qu'il y a le premier choix, il y a le deuxième jusqu'au quatrième choix. Maintenant, nous voulons du bon matériel, mais à un prix vraiment raisonnable quand même. Hein.
Le responsable de cette société qui évolue dans le domaine des énergies renouvelables est conscient de la chèreté des produits proposés. Mais Moustapha Ndiaye se défend. Selon lui, c'est l'État le seul responsable de cette situation et il argumente sur deux points fondamentaux.
Mais le problème se situe à deux niveaux. Premièrement, il y a le problème d'efficience énergétique. Je peux vous citer une étude qui a été faite en Guinée par EDG. Il a été prouvé que si en Guinée on remplaçait tout ce qui est éclairage en incandescent, les projecteurs, les ampoules de 100 watts, et qu'on remplace carrément par des ampoules économiques, on peut diviser les besoins énergétiques par 4. C'est énorme. Donc ou bien on construit 4 centrales ou bien on construit une centrale. Donc actuellement en Guinée, le gouvernement est en train de donner gratuitement des ampoules économiques pour permettre aux personnes de baisser déjà le besoin. Parce qu'on a peu de production, mais il y a un gaspillage énorme. Donc ça c'est le premier niveau. Le deuxième niveau se situe au niveau des pouvoirs politiques. Parce que entre ce que les États déclarent et ce qu'ils font en réalité, il y a une différence fondamentale. Aujourd'hui, si l'énergie renouvelable n'est pas accessible aux consommateurs africains moyens, c'est parce que les États mettent des taxes extrêmement élevées là-dessus. Il y a des pays qui font une politique qui est un peu contradictoire. On dit aujourd'hui qu'on veut promouvoir l'énergie solaire. On dit, ok, sur l'énergie solaire, on enlève 5% de taxes, mais il y a la TVA qui est appliquée dessus. Il y a un autre point très important, c'est les batteries. On ne peut pas concevoir un système solaire sans batterie. Donc si vous dites que vous voulez promouvoir ça et vous faites, les batteries sont taxées comme des produits de luxe. Aujourd'hui, les batteries sont taxées au taux de 47%, c'est le taux plein. Donc ce qui veut dire que, quand on dit 47%, c'est le prix d'achat plus 50% du prix du transport. Donc aujourd'hui, mais les produits ne sont pas accessibles aux consommateurs.
De l'énergie renouvelable accessible à tous, cela est bien possible, toujours de l'avis de Moustapha Ndiaye. Les gouvernements des pays de l'Afrique de l'Ouest ont même intérêt à favoriser les énergies renouvelables pour diminuer la production en énergie.
Si on cite l'exemple du Sénégal, l'État donne une subvention de 80 milliards par mois à la Sénélec. Mais si cette subvention, au lieu de le verser à la Sénélec, était destinée aux ménages, on dit ok, avec ce montant, mais on fait des subventions, le coût on divise par 50% ou bien on réduit aux 3/4, mais on va équiper les ménages. On va réduire la pression sociale parce que les gens pourront avoir leur énergie, au moins leur éclairage, leur télévision, et il y aura moins de problèmes. Et la Sanelec ou bien les sociétés d'énergie, ils vont se consacrer à fournir l'énergie aux grandes usines, aux grandes entreprises. Donc le problème pourrait être réglé de manière très très simple. L'autre aspect, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde, à part la production, il y a d'autres systèmes d'énergie qu'on peut promouvoir. Donc il y a le système éolien. Donc moi je pense que c'est tout simplement aujourd'hui, ce sont les États qui ne font pas leur rôle.
Pour ce qui concerne la promotion des énergies renouvelables, le Sénégal n'avance pas. En dépit de la législation existante, le Sénégal peine à asseoir une politique énergétique durable en cohérence avec nos ressources financières et naturelles. De ce fait, les acteurs de ce secteur demandent à l'État de mener des actions en vue de faire avancer l'agenda des énergies renouvelables, puisque l'objectif du Sénégal est d'atteindre l'énergie renouvelable pour tous d'ici 2030. Diana Basseidouba, Dakar, pour La Voix de l'Amérique.
Voilà, vous suivez le magazine de l'économie sur La Voix de l'Amérique. En Ouganda, la ruée vers l'or dans la province de Karamajo pèse comme une épée de Damoclès sur ce qui est devenu le gagne-pain des Karamajong. Ces derniers, qui vivaient principalement de l'élevage traditionnel, ont été contraints de se tourner vers l'exploitation à petite échelle des mines d'or de cette région du Nord-Est. Mais leur nouvelle méthode de survie est aujourd'hui menacée par de groupes de gros appétits miniers qu'attire Karamajo. Sur place, le reportage d'Hilary Heuler avec les commentaires de Jacques Aristide.
Enfant, Livingstone Ekirou ne jurait que par les bœufs et les vaches que possédait sa famille. Un troupeau de plus d'une centaine de têtes à l'époque, Ekirou vit dans la région de Karamoja, dans le nord-est de l'Ouganda. Les Karamojong, son peuple, ont longtemps été des éleveurs de bétail semi-nomades. Les traditions pastorales sont au cœur de leur culture, à tel point que la valeur d'un homme est estimée par le nombre de bovins qu'il détient. Pour Ekirou, c'est l'élevage qui a permis à son peuple de survivre depuis des siècles sur ces plaines au climat difficile.
When you have animals, there you can initiate blood of the animal and you eat.
Quand vous possédez des animaux, vous avez de quoi subsister, de la viande à manger, du lait à boire. Vous ne manquez pas de nourriture, les animaux vous permettent de survivre. Mais les éléments n'ont pas été favorables à ces éleveurs traditionnels. Le désarmement, la sécheresse et la maladie ont fait des ravages. Aujourd'hui, il n'y a qu'une poignée d'animaux dans les pâturages. Il faut trouver d'autres moyens de survie. Ekirou s'est tourné vers l'or, emboîtant le pas à des dizaines de milliers de Karamojong. Ekirou passe désormais sa journée dans une rivière presque asséchée, à mélanger terre et eau et soigneusement tamiser ce mélange dans l'espoir de trouver des petites pépites étincelantes. Des fois, il peut se faire jusqu'à 3 dollars par jour et d'autres, rien du tout. Simon Nangiro est à la tête de l'association des mineurs de Karamoja. Il estime que près de 80 000 personnes vivent désormais de l'or. Les récoltes sont souvent infructueuses, il y a peu d'industrie. Sans l'or, cette communauté autochtone arriverait difficilement à survivre, affirme Nangiro.
You know, the Karamojong region didn't know about.
Vous savez, à part élever des animaux, les Karamojong ne savaient pas vraiment faire autre chose. Mais il a fallu trouver des alternatives. Nous sommes de plus en plus nombreux à nous tourner vers l'exploitation minière parce que c'est la meilleure façon de nous faire un peu d'argent, dit-il. Mais des changements se profilent rapidement à l'horizon. Des géants miniers ont récemment commencé à explorer la région de Karamoja à la recherche de calcaire, marbre, minerai de fer et d'or, bien évidemment. Dans un rapport publié en février dernier, Human Rights Watch a tiré la sonnette d'alarme. Pour l'ONG, les compagnies minières ne respectent pas les droits des Karamojong. Elle a appelé le gouvernement ougandais à apporter les réformes nécessaires. Il n'empêche que peur et confusion se sont déjà installées. Beaucoup se sentent impuissants face au gouvernement qui encourage les investissements privés dans les mines de la région. Un ancien berger revient sur le désarmement forcé de Karamojong il y a plusieurs années. Désarmement officiellement décidé pour mettre fin au vol de bétail. Mais pour ce berger, leurs armes ont été récupérées afin de permettre l'accaparement facile de leurs terres. Nangiro affirme ne pas percevoir l'investissement étranger comme une mauvaise chose, mais comme un élément qui pourrait au contraire permettre à la région de se développer. Le changement est inéluctable, selon lui. Toutefois, conclut-il, tous les intérêts doivent être pris en compte.
Voilà, merci Jacques Aristide. Et pour terminer, l'économie américaine, 175 000 emplois ont été créés en février, mais le taux de chômage a légèrement augmenté, passant maintenant à 6,7%. Ainsi s'achève cette édition du magazine de l'économie de la Voix de l'Amérique. C'était au micro Bagassi Koura, la production Michel Joseph. Rendez-vous la semaine prochaine avec Camille Gros-Didier.